Radio Barque, notre deuxième partie pour ce 22e Radio Barque de notre 11e saison. Je rappelle que notre invité est Jean-Louis Arajol, ancien policier à la retraite, narbonnais. Après une longue carrière parisienne que vous nous avez évoquée dans une première partie, Jean-Louis Arajol, vous prenez la tête donc du alors SGP, le syndicat général de la police à Paris. Alors c'est un syndicat, dans le syndicalisme il y a toujours plus ou moins des sensibilités politiques différentes. Celui-ci, pouvez-vous le situer ?
Bien sûr, en tout cas on pouvait le situer à l'époque.
Oui, à l'époque, à votre époque.
Voilà, à l'époque.
Alors c'est années 80.
Oui, 85, 84, 85, dans les années 80, quoi. Ça correspondait à la physionomie du syndicalisme en général. Vous aviez un syndicalisme qui était donc de gauche, plutôt classé à gauche, et vous aviez un syndicalisme plutôt classé à droite. Vous aviez deux grands blocs syndicaux essentiels. Le syndicat général de la police qui faisait partie de la fédération autonome des syndicats de police, classé à gauche. Et vous aviez l'union des syndicats catégoriels, si vous voulez, classé à droite. Voilà. Et donc, nous étions ultra majoritaires à cette époque-là. Et moi, j'étais dans le courant de gauche. Mmh. Voilà, voilà.
Oui,
les
voilà,
choses se sont gâtées après avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire.
Alors, ça vaudrait une autre émission.
Ouais,
parce
ouais,
que
ouais,
l'analyse doit être...
Non, pas, mais ça, vous savez pourquoi
pas
je vous dis ça ?
Pas inintéressante.
Non, parce que ça implique, ça explique la crise du syndicalisme policier qu'il y a eu après.
Mm-hmm.
Voilà, parce qu'il y avait, lorsqu'il y a eu une inflexion du Parti Socialiste par rapport, disons, au libéralisme, la culture de gouvernement, la désindustrialisation, la 85-86, et c'était vrai dans tous les syndicats, y compris en dehors de la police, au sein même de chaque corps dont je vous parlais tout à l'heure, de chaque ensemble que je vous parlais tout à l'heure, il y a eu des frictions. Certains souhaitant se démarquer, tout en restant républicains, mais souhaitant se démarquer du Parti Socialiste,
oui,
voilà.
Ça, oui.
C'était mon cas, c'était le cas du syndicat général de la police, et d'autres souhaitant toujours rester inféodés, si vous voulez, au parti qui était au pouvoir.
Oui, on la voit que même dans les mêmes sensibilités, c'est toujours compliqué,
voilà,
complexe, mais c'est pas propre au syndicalisme de la police, on peut imaginer.
Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait des sensibilités.
Oui,
le risque, c'est qu'il n'y en ait plus.
Oui, alors, on y reviendra peut-être un peu plus loin dans
D'accord.
cette émission, mais alors, Jean-Louis Arajol, donc, vous commencez à écrire des livres, vous en avez écrit plusieurs,
oui.
Et alors, celui qui vous vaut cette présence aujourd'hui à ce micro, il s'intitule donc « Insécurité, état d'urgence ». Dans quelles circonstances êtes-vous venu après votre retraite, puisque vous êtes retraité depuis quelques années, je crois.
Oui, depuis 2014.
Hein. Oui, quand même, depuis quelques temps.
Terminé au Mali, ma carrière au Mali.
Voilà, c'est vrai, vous avez fait aussi dans l'international.
Tout à fait.
Aussi, ouais. Mais après Paris. Mais qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette envie de revenir un petit peu à vos premiers amours du syndicalisme de gauche ?
Enfin, syndicalisme républicain.
Républicain.
Être le mot plus approprié, non, mais c'est simple. C'est que, bon, malheureusement, j'ai un costard de flic, et que chaque fois que j'ai un contact avec un éditeur, y compris pour sortir un livre, par exemple, je voulais faire un bouquin sur mon expérience malienne, sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme l'autisme ou autre, bon. Et mes éditeurs, chaque fois que je les ai au téléphone, en tout cas ceux que je connais, me disent, écoute, Jean-Louis, nous, on t'aime beaucoup, mais pour nous, tu es, voilà,
catégorisé, quoi,
catégorisé flic. Donc, et il s'avère que l'an dernier, c'était le centenaire de la création du syndicat général.
Ah, voilà,
de la
donc voilà. Une date quand même qui motive un certain nombre de réactions.
Voilà, et à partir de là, c'était intéressant, d'autant que le SGP en tant que sigle n'existe plus du tout, est effacé du paysage syndical policier.
C'est-à-dire que ce syndicat-là a disparu ou
tout
c'est
qu'il
a changé de nom ?
Tout à fait, non, c'était, il y avait un groupement d'appareils et de syndicats qui s'était constitué en 2010, dans les années 2010, qui s'appelait Unité SGP Police. À mon départ, en 2000, le syndicalisme policier a implosé. Voilà. Mmh. À partir de là, il y a eu des recompositions syndicales jusqu'à la création de ce syndicat. Et ce syndicat a effacé le sigle SGP de son sigle, qui ne s'appelle plus, donc maintenant ce syndicat ne s'appelle plus Unité SGP, il s'appelle Unité police.
Voilà. Mais quelle était la manœuvre alors de vouloir effacer ce sigle? Est-ce que c'est un geste politique?
Alors, il y a deux versions. Selon ceux qui l'ont fait, non. C'est simplement une opération de communication pour être dans l'air du temps. Bon, moi je pense que c'est l'aboutissement, si vous voulez, dans le temps, de la perte du combat républicain au sein de la profession. Vous avez toute une période que je rappelle dans mon livre, d'ailleurs, je rappelle toute l'histoire du syndicalisme policier républicain, je rappelle les prises de position courageuses de tous les secrétaires généraux, sans exception, dans des moments difficiles de notre histoire, que ce soit les événements de Charonne, que ce soit la libération déjà de Paris et l'occupation nazie, les événements de Charonne, 68, la mort de Malik Oussekine avec l'intervention de Bernard Delaplace, secrétaire général, qui dit frapper un manifestant à terre, c'est se déshonorer soi-même. On pourrait, et je le cite dans mon livre, citer toutes les interventions claires des secrétaires généraux qui ont pris des positions sur les valeurs. Parce que défendre le métier de policier et défendre la police, c'est aussi défendre les valeurs qui ont fait la noblesse de la profession.
Bien sûr, une conception. C'est voilà. Ce que vous appelez la police républicaine.
C'est ce que j'appelle la police républicaine, celle qui veut en même temps de faire respecter l'ordre public, veut respecter aussi toutes les libertés fondamentales. C'est aussi simple que ça, et qui est attaché à certaines règles, à une certaine éthique de la profession.
Et alors, si vous ressentez le besoin... Alors, il y a un collectif qui s'est fondé récemment.
Justement, lorsque, en 2018, je me suis rendu compte, parce que j'avais toujours forcément des contacts avec, y compris les syndicalistes, d'autant que lorsque je suis parti, certaines de mon équipe sont parties dans un peu tous les syndicats, à l'UNSA, à Alliance, à la CFDT, etc. Donc j'avais des contacts. Et je me suis rendu compte que ce combat, donc, sur les valeurs, n'existait plus. Lorsqu'on entend un syndicaliste aujourd'hui dans les médias, je ne dis pas qu'il est mauvais. Moi, je ne veux pas critiquer les syndicats. Le syndicat, on en a besoin, il en faut pour défendre le corpo, pour défendre la profession. Mais la meilleure manière de défendre la profession, c'est aussi de défendre l'image de la police nationale vis-à-vis de la population. Et ça, ce combat-là, on l'entend plus, on le voit plus. Notamment, on l'a vu récemment pour les manifestations qui ont défrayé la chronique, je parle essentiel, les gilets jaunes, la manifestation contre le régime des retraites, la réforme des retraites, il y a eu tout un tas de polémiques, etc. Il y a eu des violences, qu'on le veuille ou pas, y compris contre les forces de l'ordre. Bon, il n'y a pas un seul secrétaire général d'une organisation représentative, entre guillemets, qui a pris la parole, comme l'a fait Monad, par exemple, en 68 avec le préfet Grimaud, pour appeler à une désescalade, pour appeler au calme. Vous voyez, c'est un exemple. Et ça, en m'étant rendu compte de cela, avec d'autres anciens du syndicat, nous avons décidé de créer en 2018, donc ce collectif, qui va devenir maintenant une association, qui s'appelle Police, République et Citoyenneté. Et notre but, on n'est pas un syndicat bis, on se refuse de l'être, mais notre but, c'est de pérenniser, justement, ces valeurs qui ont été les nôtres, qui ont fait ce qu'était le SGP, pérenniser en fait le syndicat général de la police qui n'existe plus aujourd'hui.
Alors ce livre, ça se voudrait une sorte de piqûre de rappel peut-être?
C'est ça, tout à fait. Un manifeste, d'ailleurs le deuxième, le sous-titre du livre, c'est Manifeste, vous l'avez dit tout à l'heure, Manifeste pour une police républicaine. Donc on rappelle l'histoire du syndicalisme policier républicain, on rappelle quelles doivent être les valeurs de la police républicaine, et ensuite donc on fait toute une série de propositions modestes, quelques pistes de réflexion que l'on lance comme ça au débat pour essayer d'améliorer la situation tant au niveau de la lutte contre l'insécurité que au sein même de la police nationale.
Alors justement, Jean-Louis Arajol, peut-on évoquer pas l'ensemble, évidemment l'émission n'y suffirait pas, mais quelques points essentiels de ce que vous préconisez aujourd'hui dans ce livre?
Ah bien, c'est très simple. Lorsque, par exemple, le ministre de l'Intérieur actuel, Monsieur Retailleau, quand il prend ses fonctions, souvenez-vous, il évoque la mexicanisation du pays.
Un mot qui vous plaît pas?
Non, pas du tout, parce que il parle de... C'est quelqu'un, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Retailleau, c'est quelqu'un qui a eu une éducation catholique. Bon, un Vendée.
C'est un Vendée,
tout le monde le sait. Bon, bon, mais je crois qu'il faudrait qu'il révise un peu son éducation, parce que il ne parle pas des racines de l'arbre. Il parle de l'arbre. Or, le problème que nous avons aujourd'hui en France, c'est le même que celui du Mexique. Au Mexique, ce qu'il oublie de dire, M. Retailleau, c'est qu'il y a 45% de pauvreté dans le pays.
Oui, c'est pas le même type de société.
D'accord, voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que nous, depuis des années, toutes les politiques publiques qui se sont succédées, sans exception, en matière de lutte contre l'insécurité, la réalité, c'est qu'elles ont échoué, qu'on le veuille ou pas. Bon, elles ont échoué pour des tas de raisons, mais essentiellement pour une raison, c'est qu'elles sont toutes les lois. Chaque fois qu'on a légiféré, nous les avons calquées sur un même modèle, qui est le modèle illibéral. On a copié les États-Unis en matière de police avec la territorialisation, la privatisation, la déficience et la paupérisation du service public, comme pour tous les services publics d'ailleurs. Nous nous disons, et dans ce livre donc, je le dis, il faut, c'est pas que dans celui-là, je l'ai dit dans les autres aussi, il faut changer de modèle. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le service public de sécurité, plutôt que de le paupériser et le privilégier. Regardez ce qui s'est passé, excusez-moi, mais un exemple concret, récent, les Jeux Olympiques à Paris. Là, le seul moment où la délinquance, parce que 2023, c'est le record en matière d'insécurité. Tous les chiffres sont rouges. On n'a jamais eu des chiffres aussi alarmants qu'en 2023, malgré tout ce qu'on nous vaccine. Bon. Eh bien, pendant les Jeux Olympiques, la période des Jeux Olympiques, la criminalité sur le secteur des Jeux a baissé. Pourquoi ? Parce que le service public était omniprésent, parce qu'il y avait...
Oui, il y avait une forte mobilisation policière.
Eh bien voilà. Alors plutôt que de détruire la police judiciaire, comme Monsieur Darmanin, avec son expérimentation et sa réforme, a commencé à le faire, eh bien il faut, alors que la police judiciaire c'est un de nos joyaux de la police nationale, eh bien il faut renforcer la police judiciaire, il faut renforcer l'investigation qui est complètement en crise aujourd'hui au sein de la police, ce qui explique qu'il y a des milliers de victimes qui attendent encore que leurs problèmes soient réglés. Vous voyez, il faut renforcer le service public et non plus le privatiser ou le territorialiser. Lorsque vous avez un maire, c'est le cas à Narbonne, bon, ou ailleurs, vous avez un maire qui est confronté au problème d'insécurité. Bon, il y a une déficience du service public. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il crée une police municipale.
Oui, ben oui.
Ben voilà.
Oui,
voilà.
D'ailleurs, partout se sont créés des polices municipales.
Voilà, pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'il y avait...
Parce qu'il y a un manque.
Parce qu'il y a un manque,
oui.
Tout simplement.
C'est-à-dire que la fonction régalienne est ressentie comme n'étant plus appliquée.
N'étant plus, ou étant de moins en moins,
ou
régalienne.
Pas suffisamment.
Voilà, appliquée. Nous sommes d'accord.
Et alors, quand vous dites qu'il faut renforcer donc la police, ça veut dire quoi ?
Le service public.
Le service public aussi. Mais la police, est-ce que c'est surtout davantage d'hommes ou des redéploiements ?
Il y a les deux. Il y a des policiers aujourd'hui qui sont affectés à des tâches, qu'on appelle des tâches indues ou des tâches administratives, et qui peut-être devraient être affectés à d'autres missions. Bon, on peut parler de tas de sujets, mais il y en a un qui est d'actualité et qui le sera, quoi qu'il arrive, de plus en plus, c'est le problème lié à la lutte contre les stupéfiants, les narcotrafiquants. Bon, on se rend compte que depuis la loi de 70, on n'a pas cessé de multiplier les lois ultra-répressives, d'accord, depuis cette époque-là, pour quel résultat ? Fiasco total. Bon, pourquoi ? Aujourd'hui, depuis la loi sur la performance de 2011, notamment, on demande aux policiers de faire du chiffre et de faire de la performance.
Oui, de faire de la com, un petit peu, en fait.
Faire du chiffre. C'est-à-dire qu'on a transformé les policiers en machines à produire. Bon. Or, le travail de policier, il doit être jugé non pas sur la quantité du travail qu'ils font, mais sur la qualité du travail qu'ils font. Là, aujourd'hui, on leur demande de faire du chiffre, donc on va sauter sur un fumeur de joint dans telle cité, au risque d'ailleurs de faire monter
les statistiques.
De faire monter, voilà, tout à fait. Alors, les statistiques, par contre, c'est parfait, hein, oui. Puisqu'un fumeur de joint, le fait est élucidé tout de suite, hein, il n'y a pas besoin de faire une procédure qui va durer 5 ans, mais ça expose nos collègues à des dangers, etc. Il faut quand même le préciser, toutes les tensions qui existent aujourd'hui, eh bien, elles ne sont pas étrangères à cette problématique-là. Et à l'arrivée, pour quel résultat ? Résultat, c'est néant. Néant. Le nombre de cocaïnomanes a doublé à l'affaire Denain entre 2021 et 2022. D'accord ? On a je ne sais plus combien d'usages de stupéfiants qui ont été constatés. Par contre, les trafiquants, au niveau des arrestations, je crois que c'est le seul chiffre qui n'est pas en progression en 2023. On voit que c'est un fiasco total. Donc, pourquoi s'entêter sur un domaine lorsqu'on peut changer de modèle et changer de stratégie?
Voilà, à condition qu'il y ait une volonté politique peut-être. On va y revenir dans une troisième partie. On marque une seconde pause, Jean-Louis Arajol.